Bien chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous lisons dans la seconde épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On peut traduire par nouvelle création, aussi bien que par nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. En effet, le mot grec a les deux sens. L'apôtre Paul avait-il présente à la pensée la promesse de Dieu en Ésaïe 43, les versets 18 et 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Certes, l'Éternel parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre qu'il va créer, promesse dont nous entrevoyons l'accomplissement dans l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 5, mais Paul voit dès maintenant cette création nouvelle accomplie intérieurement en chaque croyant. Il y a effectivement dans chaque chrétien authentique une seconde création. Il est une nouvelle créature. Sa vie naturelle, sur laquelle régnait le péché, a péri. Au verset 14, l'apôtre déclare « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Dieu a créé dans le croyant par son esprit une vie nouvelle dont toutes les manifestations sont opposées à celles du vieil homme. Pensée, affection, désir, besoin, joie et peine, crainte et espérance. Effectivement, l'apôtre peut donc dire que toutes choses ont été faites nouvelles. Dans un précédent message que vous retrouverez sur mon site, j'ai parlé de notre itinéraire en Christ. Nous sommes morts en lui, ressuscités en lui, glorifiés en lui. Mais je voudrais revenir sur l'une de ces étapes. Nous sommes morts en Christ. Cette victoire, car il s'agit bien d'une victoire, est acquise. En effet, Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Ce n'est pas une victoire que nous devrons remporter un jour plus ou moins éloigné, mais il nous convient de saisir cette position dès maintenant par la foi. Sur la croix, Christ s'est écrié « Tout est accompli ». À nous de le croire. Paul dit encore « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Romains chapitre 6, verset 11. Portons sur Jésus crucifié, le regard de la foi. En le contemplant dans son sacrifice expiatoire, comprenons et croyons que nous sommes morts au péché en lui. La Bible dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 24. Nous avons ici, au fond, la même pensée. Au verset 19, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mes frères et sœurs, le secret d'une vie chrétienne victorieuse ne consiste pas à combattre les œuvres de la chair, mais la chair elle-même, en la crucifiant, elle, avec ses passions et avec ses désirs. Comment ? En saisissant par la foi notre mort en Christ comme étant un fait acquis. Si vous combattez les œuvres de la chair, vous n'en aurez jamais fini et vous allez vous épuiser jusqu'à la lassitude et au découragement. Quand vous en aurez terminé ou pensez en avoir terminé avec les pensées impures, par exemple, l'envie montrera le bout de son nez. Vous la chasserez et quelque colère montera en vous pour je ne sais quel motif. Votre combat sera aussi épuisant que celui d'Abraham qui a voulu protéger son sacrifice contre les oiseaux de proie et qui, en fin de journée, n'en pouvait plus. Voyez cela dans la Genèse au chapitre 15, les versets 7 à 12. Croyez-moi, la seule façon de triompher des œuvres de la chair, c'est de triompher de la chair elle-même. Dans une église, un dimanche matin, un chrétien a élevé sa voix pour prier. « Seigneur, enlève les toiles d'araignée que j'ai dans le cœur. » C'était simple, imagé, mais c'était très clair. Et tout le monde pouvait comprendre. Le dimanche suivant, le même chrétien élève à nouveau sa voix. « Seigneur, enlève les toiles d'araignée que j'ai dans le cœur. » Et il a fait cette même prière plusieurs dimanches de suite. Quand il l'a fait pour la énième fois, un chrétien excédé pria juste après lui, « Seigneur, tue l'araignée qu'il a dans son cœur, et il n'y aura plus de toile. » Vous avez compris, n'est-ce pas? Que de chrétiens qui passent leur temps à balayer les toiles d'araignée, je veux dire les œuvres de la chair. Mon frère, ma sœur, tuez l'araignée, crucifiez une bonne fois pour toutes la chair elle-même. Placez votre foi dans votre identification avec Christ dans sa mort et maintenez cette vie de foi en permanence, instant après instant, tout au long de votre marche avec Jésus. Ne permettez pas à l'araignée de reprendre vie, elle n'attend que ça. Nourrissez votre foi, rendez-la inébranlable, travaillez à ce qu'elle ne faiblisse jamais. Je voudrais maintenant vous conduire vers un texte de l'Épître aux Colossiens. Il se trouve au chapitre 3, verset 3. « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et dans les versets 5 à 10, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il y en a des toiles d'araignée dans ce texte, j'en ai compté 11. En premier lieu, nous pourrions considérer une contradiction chez Paul. En effet, il nous dit au verset 3 que nous sommes morts avec Christ, et au verset 5 et suivant, que nous devons faire mourir l'impureté, etc. Paul, il faudrait savoir, nous sommes morts ou il faut faire mourir? Et Paul nous répondrait, vous faites mourir en croyant que vous êtes mort. C'est aussi simple, mais aussi puissant que cela. D'ailleurs, à la fin de ce texte, lu il y a quelques secondes, l'apôtre Paul précise que nous devons nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. D'abord, le vieil homme et ses œuvres par voie de conséquence. En résumé, la liste des divers péchés de la chair énumérée dans ce texte, cette liste est encadrée par une même vérité enseignée sous deux aspects. D'abord, notre mort avec Christ, au verset 5, et le dépouillement du vieil homme suivi du revêtement de l'homme nouveau, dans les versets 9 et 10. Les œuvres de la chair sont donc comme broyées entre les deux mâchoires de cette victoire contenue dans la personne et l'œuvre de Jésus. Alléluia. Allons maintenant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 8, où l'apôtre Paul écrit ceci. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Et maintenant, écoutez bien, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul ajoute « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » L'apôtre fait référence ici aux prescriptions de la Pâque juive contenues dans l'Ancien Testament. Je ne m'attarde pas sur ce point, je m'adresse à des chrétiens qui connaissent leur Bible. Cela dit, posons la question à l'apôtre. Pourquoi nous demandes-tu de faire disparaître le vieux levain, puisque tu affirmes juste après que nous sommes sans levain? Je crois savoir ce que Paul nous répondrait. La fin du verset lève le voile sur une merveilleuse réalité et sur une glorieuse victoire. Car, écrit l'apôtre, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Autrement dit, en lui, voilà la vérité. En lui qui a été immolé, en lui, Christ, votre Pâque, vous êtes sans levain. En lui, vous êtes libre de toute souillure, de toute corruption, et vous faites disparaître le vieux levain en saisissant par la foi qu'en lui, vous êtes sans levain. Là encore, c'est aussi simple que ça. La mort de Christ est un chèque en blanc. Notre privilège est de noter sur ce chèque en blanc le capital dont nous voulons bénéficier. Jusqu'où votre foi ira-t-elle dans ce domaine? C'est à vous de répondre. Au point où je suis parvenu dans mon message, j'aimerais poser une question qui me semble fondamentale dans ces temps de crise spirituelle grave que nous traversons. Quel est notre christianisme? L'Écriture déclare « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. Colossiens chapitre 2, les versets 20 à 23. Il nous faut bien comprendre le sens de ce texte. Les pharisiens se bornaient à des prescriptions extérieures symboliques et ils n'ont pas compris l'accomplissement merveilleux de ces choses que Paul désigne comme l'ombre des choses à venir, accomplissement en Jésus-Christ. Pour le croyant qui a saisi la grâce, c'est tout à fait différent. Ce texte ne veut pas dire que nous pouvons vivre n'importe comment, bien évidemment, mais il y a des prescriptions inutiles pour ceux qui sont morts en Christ. Ceux-là n'ont pas besoin de préceptes d'interdiction. Il y a longtemps qu'ils ont rompu avec tout ce qui est mauvais. Si une personne, par exemple, est physiquement morte devant vous, pensez-vous qu'il soit utile de lui dire « Ne prends pas un serpent dans ta main, il va te mordre. Ne touche pas à ses épines, tu vas te blesser. Ne goûte pas cela, c'est infect. » Il est mort. Pour lui, toutes ces prescriptions sont inutiles. Ce n'est pas que les prescriptions soient mauvaises en elles-mêmes, mais c'est que le mort n'en a plus besoin. J'aimerais maintenant être bien compris dans ce que je vais dire. Nous n'avons pas à prêcher un christianisme, un pentecôtisme d'interdiction. Lorsqu'on est mort, bien des choses deviennent évidentes et inutiles. Ce qu'il faut prêcher, c'est la croix, la mort victorieuse de notre Seigneur Jésus, la mort du chrétien en Christ et la vie de résurrection en lui. Lorsqu'on est encore vivant, et je mets le terme « vivant » entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, lorsqu'on est encore vivant, on est encore à se demander « Puis-je prendre ou non ? Puis-je toucher ou pas ? Puis-je goûter ou ne pas goûter ? L'autre le fait bien et il est béni quand même. » Vous savez, prendre, toucher, goûter sont trois verbes qui me rappellent le jardin d'Éden. Ève a touché le fruit défendu, elle l'a pris et l'a goûté. Certains chrétiens se disent « Dieu me punira-t-il si je désobéis un peu, si je désobéis beaucoup, si je désobéis passionnément ?» Je ne sais pas jusqu'où ils sont prêts à effeuiller la marguerite de la désobéissance. Tant de choses ne se posent plus dans un christianisme constitué de gens qui sont morts en Christ. D'ailleurs, un mort ne discute pas, il est mort. La Bible va jusqu'à dire que nous sommes ensevelis avec Christ. Dans le texte que je viens de vous lire, Vous avez sans nul doute relevé une parole de Paul, « Pourquoi comme si vous viviez dans le monde ?» Mes frères et sœurs, y sommes-nous encore? Y vivons-nous encore? Je parle sur le plan spirituel, bien évidemment. Si nous sommes dans le monde, si nous sommes du monde, et si nous vivons dans le monde, alors nous ne sommes pas en Christ. Écoutez l'apôtre Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Première épître de Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. Jacques écrit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Chapitre 4, verset 4. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est mort en Christ ne conteste pas avec le Seigneur. Il ne jongle pas avec les textes de l'Écriture. La contestation n'était pas l'habitude des églises de Dieu au temps de Paul. En résumé, Jésus attend de nous la mentalité d'un vrai disciple. Le Maître sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il demande, il sait ce qu'il conseille, il sait ce qu'il ordonne. Je le suis et j'obéis. Je terminerai par le texte de l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui ou par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, écrit Paul. Un crucifié n'a jamais été un tableau attirant, loin s'en faut. Il y a dans ce texte, en quelque sorte, un aller-retour. Le monde nous méprise, il nous rejette, l'esprit qui nous anime est opposé au sien, la vie que nous menons, notre vie de chrétien, rebute le monde. Eh bien, nous le lui rendons bien. Nous rejetons son esprit, nous rejetons sa souillure, tout ce qui le constitue et l'anime. Nous serrons fortement dans notre cœur les paroles du Seigneur Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean, chapitre 15, les versets 18 à 21. Avec le poète chrétien, nous chantons ces paroles. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Amen.